France Inter.
À vous qui m'écoutez en podcast, je suis dans mon bistrot et j'attends une invitée que m'a conseillée Barack Obama. Et oui, car il parle d'elle comme du renouvellement de la politique de l'avenir. Elle vient de l'Ain, d'un milieu rural, elle a 32 ans. Et là, elle rentre juste des États-Unis. Elle s'appelle Loumir Lapray. Elle arrive, c'est elle. Bonjour Loumir.
Bonjour.
On s'embrasse?
Avec plaisir.
Bienvenue.
Merci.
Dans mon bistrot, j'ai en face de moi le renouvellement de la politique.
Oh, waouh. Ouais. Pas de pression.
Allez, on va la boire. Venez vous asseoir Loumir.
Merci.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Loumir Lapray, vous avez 32 ans, vous avez grandi en milieu rural dans un village de l'Ain, 174 habitants.
C'est ça, Proulieu, un hameau merveilleux.
Ah, on va en parler tout à l'heure, je suis très curieuse. Vos grands-parents étaient agriculteurs?
Ça dépend. Du côté de mon père, ils viennent de milieu agricole, mais c'est les premiers instituts de la campagne.
Ah, okay.
Mmh. Et du côté de ma maman, ma grand-mère était coiffeuse et mon grand-père ouvrier.
Mmh. Votre mère est prof, votre père est cheminot.
Plus maintenant, mais il a été cheminot pendant 25 ans, tout à fait.
Voilà. Tout ça pour dire que rien ne vous prédestinait à être citée en exemple par Barack Obama comme représentante d'une jeunesse qui renouvelle la politique. Rien que ça, on l'écoute.
I'm thinking about leaders like Loumir Lapray, community organizer in France, who's training a network of rural change makers in a country where extremism dominates many villages.
Il explique que vous faites de la mobilisation citoyenne en milieu rural pour lutter contre la progression de l'extrême droite.
Ça fait.
Voilà. On est où et quand Obama prononce votre nom et vous cite en exemple
là? Alors, on est en décembre, début décembre, je crois que c'est le 6.
De l'année
moi,
dernière.
Je suis, tout à fait, ouais. 2024. Et moi, je suis à New York. La blague, si vous la voulez, ouais, c'est que la weed est légale à New York. Donc moi, j'étais un peu fonfon quand ce truc est arrivé.
Ça commence bien.
Et donc les équipes de la Fondation Obama m'appellent en me disant « Le président parle de toi, nanana ». Moi, j'étais là « Ouais, ok, lol ». Et en fait, j'oublie, parce que c'est un peu la... Ça fait ça, quoi. Et donc le lendemain matin, je me réveille avec des dizaines de messages et je me dis « Ah oui, en fait, c'était pour de vrai ». C'était marrant, quoi, oui. C'est vrai que c'était... J'ai repensé à... Mes après-midi à Proulu en écoutant Britney et je me suis dit, je m'y attendais pas quand même. Britney Spears, bien sûr, ma grande idole grâce à qui j'ai appris à parler anglais toute seule dans ma chambre.
Ah, c'est comme ça.
C'est comme ça.
Parce que vous avez un t-shirt aujourd'hui, Britney
bien
Spears.
Bien sûr, j'ai écouté Britney en venant ici. Mmh. C'est pour moi vraiment la première personne qui m'a prouvé qu'on pouvait être une jeune femme et venir d'un petit village et quand même avoir de l'ambition et tout en restant sympa et authentique. C'est bien plus profond que ce qu'on croit, Britney.
Ah oui, ça, j'en doute pas. On va pouvoir parler avec vous de jeunesse rurale, de nouvelles façons de faire de la politique. Vous revenez de 6 mois à sillonner la Virginie occidentale, dont les Appalaches, milieu rural blanc américain, où vous essayez de comprendre le vote Trump. Vous avez parlé avec plein de gens là-bas. D'abord, Barack Obama, pour revenir une dernière fois à lui, vous qualifie de community organizer.
Tout à fait.
C'est votre vocation, votre travail. What does it mean?
C'est une très bonne question. Alors, ça n'a pas vraiment de traduction en français. Le principe du community organizing, c'est de dire les gens, quels qu'ils soient, où qu'ils habitent, ils sont les mieux placés pour identifier leurs problèmes et les solutions pour y répondre. Mmh. Et donc, on n'a pas besoin de grands chefs à plume, on a besoin de pouvoir populaire. C'est de dire, il y a plus de force dans le nombre que dans l'argent, que dans les diplômes.
Ça commence dans notre immeuble.
Tout à fait, ça commence dans notre école.
Ouais.
En fait, à partir du moment où on partage des intérêts concrets et qu'on rencontre les mêmes problèmes avec un groupe de gens, et qu'il y a une hiérarchie, des institutions, un mauvais patron, un proprio véreux qui nous empêche d'accéder à la dignité qu'on mérite tous en tant qu'être humain, et ben, on s'organise et on gagne, quoi.
C'était le métier de Barack Obama?
Tout à fait, son premier travail à Chicago,
ouais. Et voilà.
Où il organisait les populations noires, donc notamment lié autour de l'église, parce qu'on est aux États-Unis et c'est ce qui structure encore beaucoup la communauté, notamment afro-américaine, mais pas que. Et son travail, c'est, lui, il l'explique, hein, la première année, il a bu des cafés avec les gens. Parce qu'en organizing, on dit « people before project ».
Ah, ouais.
Et en fait, d'abord, on construit du lien entre les gens et on se connaît et on construit des relations. On apprend à travailler ensemble. Et après, on choisit le projet qu'on est le plus à même de gagner.
Et l'activisme, vous l'étudiez aussi.
Mm-hmm.
Vous ne faites pas que le pratiquer.
Tout à fait, je pense que c'est important.
Voilà, j'ai appris par votre voix que Rosa Parks, qui en 55 aux États-Unis, refuse de céder sa place à un blanc dans le bus, C'est pas qu'elle a eu une lubie comme ça. C'était.
C'est 10 ans de taf.
Ah, 10 ans de travail.
10 ans de taf. Mais en fait, c'est même plus que ça. C'est, enfin, Rosa Parks, elle est l'héritière du mouvement de fin de l'esclavage. Parce que quand il y a la fin de l'esclavage, très vite, il y a la mise en place de la ségrégation. Et tout de suite se met en place la résistance à la ségrégation. Mais les gens savent pas trop par quel bout prendre le truc. Donc ils testent plein de choses. Ils testent les procès, attaquer les États en justice contre la ségrégation. Et puis en fait, ça marche pas. Et puis ça prend toute une génération de noirs qui doivent être formés en tant qu'avocats, parce qu'en fait il n'y a pas d'avocats noirs, il n'y a pas d'activistes noirs, il n'y a pas des professeurs noirs. Enfin, quand on sort de l'esclavage, tout le monde est esclave, illettré, n'a pas accès à des droits, etc. Donc il y a vraiment en américain ils disent we stand on the shoulders of giants, donc on s'élève sur les épaules les uns des autres en fait. Et Rosa Parks, c'est pas une anomalie, c'est-à-dire que juste avant elle, il y avait une autre candidate à faire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire refuser de céder sa place à un blanc dans le bus, mais il s'avérait qu'elle était jeune et elle était enceinte d'un notable du coin. Donc on a dit, toi, t'es pas une bonne victime.
Elle n'avait pas le profil.
Exactement. Et Rosa Parks, dans mon souvenir, elle refuse de se lever un vendredi, elle est arrêtée un vendredi, toute la presse est là, comme par hasard. Le samedi, les machines imprimées fonctionne à Bâle, et le dimanche à la messe, la totalité des paroisses noires diffuse le tract pour commencer le boycott le lundi. Mais il y a déjà un plan de covoiturage. Enfin, il y a un plan, en fait. Ouais. Et ça, c'est aussi beaucoup, moi, ce que j'aimerais qu'on importe un peu plus en France, c'est que nous, on a une tendance à faire des manifs spontanés. C'est la beauté de ce pays, c'est merveilleux. Enfin, la réforme des retraites, les gilets jaunes, c'est...
Oh, c'est le côté latin, ça.
Voilà, et ça fait le sel de... Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'on résiste encore beaucoup mieux que d'autres pays. Mais la mobilisation, la manifestation qui n'est pas pensée dans un cadre de mobilisation et de construction de pouvoir populaire, malheureusement, elle fait pchit.
Mais pourtant, les syndicats sont chargés d'organiser ça.
Alors,
faudrait qu'ils se remettent un peu en question.
Oui, je pense. Alors, je dis ça en ayant la conviction profonde que le syndicalisme, c'est l'avenir du mouvement populaire. L'histoire note nous le prouve. Enfin, je veux dire, le Front Populaire. On parle beaucoup du Front Populaire, le nouveau Front Populaire cet été, etc. Le gouvernement de coalition de Léon Blum, il n'avait pas prévu de nous donner des congés payés. C'est le mouvement populaire par une grève qui fait le forcing pour qu'on ait les congés payés. Et donc pour moi, il ne peut pas y avoir de mouvement de gauche fort s'il n'y a pas derrière un mouvement populaire fort pour taffer, quoi. Et taffer, ça veut dire faire les entrées d'usine, être sur le parking et dire aux gens c'est quoi vos problèmes, comment on s'organise.
Je rappelle que vous n'êtes pas encartée, l'ouvrir l'après.
Pas du tout, je suis de gauche, je m'encarterai le jour où il y aura le nouveau Front Populaire qui sera un parti. Je ne choisis pas entre Philippe Poutou, le PS, Mélenchon, je suis de gauche. Et je crois qu'on ne peut pas gagner sans être la gauche unie. Et je ne le crois pas juste parce que moi, c'est mon histoire, mais parce que quand je toque à des portes, le peuple de gauche ne comprend pas ce que les gens à Paris foutent. Et je ne sais pas avec qui les cadres politiques parlent, qui leur fait croire que c'est leur base qui les empêche de faire l'union, mais ça n'est pas vrai. La majorité des gens, alors en tout cas dans la France rurale et périurbaine, qui est celle que je connais le mieux, aspirent à une unité de gauche. Et je crois que si on regarde l'élan populaire extraordinaire qu'il y a eu pendant le NFP en juin, ça valide complètement cette hypothèse.
On va y aller dans ces zones rurales, vous allez nous emmener, et d'abord on va parler de vous, vous connaître un petit peu mieux, Loumir Lapré. Vous venez donc de Proulieu dans l'Ain, village de 174 habitants. Déjà, c'est comment de grandir là-bas ?
Alors, c'est à la fois une liberté totale et un grand enfermement. Une liberté totale parce que on connaît tout le monde, donc on est très libre, enfin on traverse la route pour aller chez les copains. À l'époque, il n'y avait pas de portail. Il y avait... Enfin, je veux dire, on pouvait se faire engueuler par la voisine. On allait au boudin dans la salle des fêtes. Moi, j'étais...
Au boudin, la salle
boudin.
Des fêtes.
Alors, il y a une salle des fêtes.
Ouais.
Il y a le loto, le boudin, les conscrits.
Mais attendez, le boudin, c'est quoi concrètement?
On fait un boudin et on
boudin.
Mange un boudin, quoi.
Ah,
ouais,
d'accord,
ouais,
okay.
Un boudin.
Okay.
Les rillettes, la paella, enfin, vraiment des fêtes. Le bal, quand j'étais ado, tous les samedis soirs, on allait au bal. Alors, pour les Parisiens qui nous écouteraient, je ne parle pas un bal des débutantes où on met des robes et tout. Enfin, on mettait des robes, mais ouais, pas le même genre. Et pas achetées aux mêmes endroits, plutôt là, à l'eau, vêtements et gémeaux, quoi. Et en fait, c'est un parking sur lequel on met des balises et on met une sono, une machine à mousse et on écoute Rihanna, quoi. Okay. Donc, ça, c'était une immense liberté parce que personne nous emmerdait. En fait, on pouvait mettre la musique super fort, on pouvait camper sur les bords de l'Ain, on pouvait faire plein de choses et en même temps, on peut rien faire sans voiture.
Donc on passe le permis dès qu'on a 18 ans.
Oui, le lendemain. Souvent, parce que le tri scolaire est ce qu'il est, on... sors avec des mecs un peu plus âgés qui sont en pro et qui, eux, ont une voiture parce que, bon, soit ils ont redoublé, soit ils sont un peu plus âgés, comme je disais, donc ils ont une voiture, donc ils nous emmènent. Il y a des drames, donc il y a des accidents de voiture. Moi, j'ai plusieurs amis pendant le lycée qui sont morts d'accidents de voiture. Et l'autre gros problème que je crois important et qui ne s'arrange pas, c'est l'état de la santé, et de la santé mentale notamment chez les jeunes. Chez moi, donc, par exemple, dans mon bassin de vie, 100 000 personnes, il y a un psychiatre conventionné. Donc en plus, quand tu rajoutes la masculinité hégémonique où t'es pas quand même censé, quand t'es un bonhomme, te plaindre, les ambivalences sur le psy, demander de l'aide, machin, ça c'est très compliqué. Donc pour moi, il y a un côté naïf dans la manière dont j'ai grandi, parce que c'est vrai que quand je suis arrivée à Lyon pour faire mes études
de Sciences Po,
à Sciences Po Lyon, ouais, j'ai eu l'impression de débarquer. Je connaissais pas les marques, je connaissais pas, j'avais pris de la drogue, enfin bon, on fumait des chuchons au bord de l'Ain, mais bon, ouais. Voilà, mais il y avait des gens qui prenaient de la coke, des trucs, moi j'avais vu ça que dans des films. Et en même temps, un côté très adulte où quand je voyais les embrouilles qu'avaient les gens à Sciences Po Lyon, je me disais, vous avez pas de problème, vous, en fait. Enfin, chez nous, il y avait du chômage, il y avait des licenciements, il y avait des violences conjugales. Bon, ça, c'est dans tous les milieux, mais renforcé par la pauvreté, le camp d'Iraton, la difficulté à partir, l'absence d'infrastructures pour les femmes qui sont victimes. Donc, vraiment une grande ambivalence pour moi. Mais au global, je dirais que j'ai trop kiffé, en fait. C'était merveilleux d'avoir l'immensité de la plaine de l'Ain sous les yeux. Et puis moi, j'ai eu le choix aussi. J'ai eu le choix de faire des études, j'ai eu le choix de partir. Donc je pense que d'autres personnes vous diront d'autres choses. Je suis blanche, je suis pas LGBT. Donc je fais partie de la norme.
Ouais. Et la maison dans laquelle vous avez grandi ?
J'ai grandi dans une maison phénix.
Ah, mais qu'est-ce que c'est, ça ?
Alors, une maison phénix, c'est le préfabriqué de la maison, quoi. Ça a été inventé dans les années 70. C'est des maisons en kit qui étaient 30% moins chères que des maisons qu'on construisait. Donc, en fait, ça arrive en kit, on la monte. Et puis, voilà, ça a permis à des générations de petites classes moyennes d'accéder à la propriété.
Mais alors, dans ce type de contexte, généralement, les jeunes disent « Sciences Po, c'est pas pour moi ».
Ah non.
Eh ben, vous, non.
Moi, je suis un produit de la méritocratie française, dans le sens où c'est quand même ma mère qui a fait le gros du taf. Et mon père, enfin, je veux dire, je suis vraiment le produit de cette histoire de la France où ascendance ouvrière et agricole, et c'est mes parents qui sont devenus fonctionnaires. Je veux dire, ma mère et mon père ont abattu un gros travail de capital culturel, où moi j'ai grandi avec des livres, j'ai grandi avec, comme beaucoup d'enfants de profs, l'idée que l'école pouvait tout. Je remets pas en cause le fait que j'ai bossé, il n'y a pas de souci, j'ai bossé beaucoup. Trop par moment, avec vraiment ce sentiment que chaque... alors, j'avais pas de mauvaise note au lycée, mais quand je suis arrivée à Sciences Po, ça m'est arrivé. Chaque mauvaise note, ce serait un signal de retour au village. J'ai fait une dépression en arrivant à Sciences Po. Hein, clairement, j'étais sous mes docs. Enfin, c'était très, très dur. D'un coup, je voyais des personnes sans domicile fixe. Ça n'existe pas à la campagne. La pauvreté est réelle, mais elle a un autre visage. C'était en pleine crise des Roms. Je mets des guillemets, vous voyez pas, mais... il y avait des enfants qui dormaient dehors. Enfin, moi, ça m'a... Je suis allée à Sciences Po en pleurant pendant les premiers mois. Ouais. Et puis surtout, je suis arrivée, les gens se parlaient de leur lycée. Ils avaient des sacs, comptoir des... Alors, à l'époque, c'était la mode, comptoir des cotonniers, Zadig et Voltaire, nanana. Enfin, moi, et surtout, ils avaient une espèce de nonchalance et de confiance.
D'assurance bourgeoise.
Que seule la bourgeoisie donne. Et moi, oui, j'ai fait une dépression, j'avais des pensées suicidaires, j'ai été extrêmement isolée. Ça a été très, très dur. Et puis, j'ai pas demandé d'aide parce que je me disais, j'ai déjà tellement de chance d'être sortie que je vais pas en plus me plaindre.
Et pour autant, tout cela vous mène, dans le cadre de vos études, à un stage à Los Angeles.
Tout à fait.
La fameuse ligne Proulieu Los Angeles.
Exactement, hein. le pipeline.
Voilà, c'est ça.
Je suis allée à Sciences Po avec l'idée d'aller aux États-Unis. C'était obsessionnel.
Okay.
J'ai choisi Sciences Po Lyon parce qu'il y avait un partenariat avec les États-Unis.
Ah, vous avez tout organisé déjà.
Ah oui, c'était pensé.
À la Rosa Parks.
C'est ça, j'avais un plan. J'avais un plan et j'avais envie de découvrir un monde où j'avais l'impression, et je me suis pas trompée, même s'il y a plein, on peut en parler, hein, de problèmes aux États-Unis, mais qu'on pouvait être un individu et pas le produit de son milieu. Et moi, en arrivant à Sciences Po, j'ai eu profondément l'impression d'être le produit de mon milieu, et j'avais envie d'être libre, et je ne pouvais pas être libre dans l'élite.
Et ça, vous aviez lu Bourdieu ou c'était d'instinct ?
Non, j'avais pas lu Bourdieu. Bah après, ma deuxième année à Sciences Po, j'allais mieux parce que j'ai découvert la sociologie. Et je me suis dit, ah, mais en fait, je ne suis pas folle. Ça n'est pas que moi, c'est théorisé. Et donc, ça allait déjà un peu mieux.
Ouais. Los Angeles, qu'est-ce que vous faites là-bas alors ?
Je fais du syndicalisme.
Et sur fun syndicalisme.
Fun,
j'adore
super
cette idée.
Fun syndicalisme.
Et sur quel sujet précisément ?
Sur l'augmentation du SMIC. Donc en fait, j'arrive aux États-Unis, à Los Angeles, à un moment où la campagne pour l'augmentation du SMIC commence. Mais donc, bien évidemment, parce que c'est le syndicalisme américain, il y a déjà 10 ans de boulot en fait. Mais moi, j'arrive sur le lancement de la campagne publique, mm-hmm. avec comme projet le passage du SMIC de $9 à $15. T'imagines ?
Ouais.
Enfin, en France, c'est inimaginable de dire on va quasi doubler, quoi. Et ça a marché. On a gagné en 9 mois de campagne.
Waouh.
Et ça...
Avec quelle méthode alors ? Parce que le syndicalisme alors, joyeux...
L'organizing. C'est là que j'ai découvert la force de l'organizing. Alors concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni 100 000 personnes dans Los Angeles qui ont signé ce qu'on appelait une pledge card, donc une carte qui disait « Je m'engage à lutter pour $15 par heure et tant qu'on n'aura pas $15 par heure, on va vous faire chier en fait.
» Okay.
Voilà. Et le 1er mai, c'était un moment merveilleux où on a organisé donc avec des outils du quotidien de ces travailleurs, donc des panières à linge, des brouettes, parce que les femmes travaillent dans les maisons à l'intérieur et les hommes à l'extérieur, ils sont jardiniers. Mm-hmm. On a déversé ces 100 000 cartes sur le parvis de la mairie de Los Angeles et on a dit en fait, on ne vous lâchera pas. Donc on va être là tout le temps dans vos bureaux à faire du lobbying. Les Américains, ils rentrent chez leurs députés comme ils vont acheter une baguette de pain chez nous. Et ils sont là, en fait, je t'ai élu. Donc il y a un moment, tu fais quoi pour moi ? Parce que si tu fais rien pour moi, tu dégages, je t'explique. Et ça, c'était extraordinaire. On a formé les gens à raconter leur histoire. Donc toutes les raisons possibles et inimaginables pour lesquelles les gens auraient besoin que le SMIC augmente. Et les problèmes qu'ils avaient en étant payés $9 par heure, ils sont allés les raconter à toute la presse, à tous les élus. Dès qu'il y avait un élu, on venait. Et il y avait une personne avec un micro qui racontait son histoire. À cause de vous, mon fils a dû partir à la guerre en Afghanistan. Il est rentré avec un trouble post-traumatique. Enfin, genre, en fait, vous niquez nos vies, lourd. Et c'est pas normal parce que nous, on vous élit. Donc vous bossez pour nous, dernière nouvelle. Donc en fait, on va changer ça. Et ça, ben, ça a fonctionné parce que les élus se sont sentis pressurisés à fond. Parce qu'en face, la communauté, donc surtout des restaurateurs, des employeurs, n'a pas réussi à s'organiser pareil. Et en fait, ils ont beau filer des thunes, ben, ils n'ont pas assez de votes, en fait. Donc quand les politiques se sont dit, en fait, on va perdre, ils vont nous dégager. Et ça a marché.
Il ne reste plus qu'à l'appliquer en France.
Exactement. En France, on doit se battre parce que les capitalistes essayent de détruire tout ce qu'on a gagné. Mais on ne peut pas être juste dans la réaction parce que sinon... On construit rien.
Mmh. Et vous êtes devenu ensuite attaché parlementaire d'un député démocrate californien, c'est bien ça ?
Tout à fait. Alors là, j'ai eu un grand moment. Quand je suis arrivée, je me suis posée devant la Maison Blanche et j'ai pleuré pendant 2 heures. Je pense de tout le stress de ces études. Je me suis dit, ça y est, en fait. Personne ne va me voler ça. Maintenant, quoi qu'il arrive... Je ne serais pas forcée de retourner dans l'Ain, ce qui est drôlissime parce que j'ai choisi de retourner habiter dans l'Ain. À l'époque, ce n'était pas mon plan. Mais je me suis dit... Je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont un parcours d'ascension professionnelle, il y a un moment où tu crantes. Et j'ai eu vraiment cette impression où je me suis revue à 12-13 ans dans ma chambre en écoutant Britney et je me suis dit, putain, ça y est. Ça y est.
Ouais.
C'est pas tout fini, il y a encore du taf. Mm-hmm. Parce que j'avais que 22 ans, donc c'est pas non plus... Pas Jordan Bardella qui va écrire ses mémoires à 23, quoi, mais... mais je me suis dit ça... Ouais. Ok.
Ok, donc, vous travaillez auprès de ce député de Californie, donc vous connaissez le milieu à Washington, etc. Et quand vous rentrez en France, on est en pleine mobilisation des Gilets jaunes. Mm-hmm. Donc là, il y a une espèce d'alignement des planètes pour vous. Vous dites, là, il y a un tournant pour vous.
Ah ben, moi, ça m'a sauvé idéologiquement, les Gilets jaunes. Parce que je crois que mon passage par l'élite avait fini par me convaincre que les gens que j'aimais, avec qui j'avais grandi, étaient irrécupérables.
Mm-hmm.
Des gros racistes, des gros fachos, impossibles à mobiliser.
Beaucoup de vos amis votent RN aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Bon, comme ils sont à l'image de la France rurale et périurbaine. Donc, pas tous, surtout pas tout le temps. Mm-hmm. Parce que comme beaucoup de personnes de la France populaire, ils votent rarement ou pas toujours. Mais oui, bien sûr. Et quand j'ai vu ce truc commencer, je me suis dit, mais qui est-ce que j'étais pour douter des miens comme ça, quoi ? Et là, ça m'a vraiment mis un gros coup d'humilité où je me suis dit, mais en fait, il faut que je rentre.
Mmh. Ok, donc, suite à la mobilisation des Gilets jaunes, les cahiers de doléances, au moment où on parle, ils viennent d'être rendus accessibles au public. C'était pas le but au départ qu'ils finissent aux archives. Le fait de s'asseoir comme ça sur les cahiers de doléances. Je vois que vous prenez une grande inspiration là, ça vous vénère cette question.
Ah bah ça me. Ah oui. Ça me. J'ai pas de mots assez forts pour dire à quel point ça m'enrage. Parce qu'on a fait croire aux gens dont le premier problème était de dire on ne nous écoute pas, qu'on allait les écouter, et après on s'est torché avec leurs problèmes. Et il faut lire ce que les gens racontent dans les cahiers de doléances. Enfin, c'est une séance de psy pour des gens qui n'ont pas de psy. Mmh. C'est un déversoir d'être ras la gueule des factures, ras la gueule du crédit, ras la gueule de l'isolement, de la fermeture de la poste, d'avoir un gamin handicapé et pas de structure d'accueil, d'être en intérim et d'être viré, d'être en intérim parce que tu l'as choisi, mais en fait de pas pouvoir faire un crédit parce que t'es pas en CDI et du coup d'habiter chez tes... Enfin, et la trahison absolue qu'a été le grand débat et toutes les conneries qui en ont suivi, quand je vois les mamans qui ont pris du temps sur leur temps de travail, enfin je veux dire, du temps qu'elles n'avaient pas, pour aller faire confiance à l'État, à la puissance publique, déverser leur cœur, des choses qu'elles n'avaient parfois jamais dit à leur famille, à leurs enfants, à leur mari, à leur...
On peut les consulter aujourd'hui,
oui,
hein, pour les lire.
Bah, d'ailleurs,
c'est une mine.
C'est une mine d'or, et puis... Je veux dire, moi, je suis pas surprise. Enfin, c'est des trucs qu'on entend au café, machin. Mais j'aimerais que les gens qui décident lisent. Franchement, t'en lis 3 pages. Je comprends pas après comment tu fais les mêmes politiques. Mais bon.
Et aujourd'hui, en tout cas dans l'Ain, les gens, ils y repensent à ça. Ils sont vénères de ça ou c'est derrière eux les cahiers de doléances.
Alors, ils parlent pas tant des cahiers de doléances que des gilets jaunes. Pour la première fois. Il y a eu le sentiment d'être ensemble et surtout, ça a été la fin de la honte. En fait, c'est un peu comme quand moi, j'ai découvert Bourdieu. Les gens se sont dit, mais putain, mais toi aussi. Mais donc, ça n'est pas une faillite morale. Ça n'est pas un échec individuel. C'est une faillite du système. Mmh. Et ça a complètement radicalisé les gens. Et là, on a été très mauvais à gauche. Mais très, très, très mauvais. Aujourd'hui, 44% des gilets jaunes votent pour le RN. Mmh. Et le RN, bon, on peut en parler, hein, sur leur... Enfin, je veux dire, c'est plus facile de gagner quand tu mens, ça c'est sûr. Mais, vraiment, et ça, moi, je l'ai vu, et c'est sur ça que je travaille, donc ça m'affecte particulièrement, mais je crois que n'importe qui a des yeux et des oreilles et qui est un peu honnête, peut dire qu'aujourd'hui, enfin, qu'à l'époque, les syndicats et les partis de gauche ont regardé et ils ont dit, c'est qui ces beaufs, là ? Ils veulent quoi ? C'est quoi leur problème avec leur bagnole ? Non mais ça c'est pas écolo. Oh, ils vont encore nous sortir des trucs racistes, on peut pas s'associer et tout. Et franchement, on a raté le coche. Mmh. Vraiment, on a raté le coche parce que, encore une fois, le problème de la France populaire blanche, c'est l'absence de politisation de son vécu. Les gens ont des galères individuelles et se blâment eux-mêmes et dans un espèce de miroir, blâment ceux qui sont en dessous. Parce qu'en fait... La fierté vient du fait d'avoir quelqu'un en dessous de soi, quoi. Enfin, je veux dire, ça a été théorisé, c'est pas moi qui le raconte, hein. Webb Dubois, W. Dubois, qui est le plus grand sociologue, le premier sociologue afro-américain, dit que c'est le salaire symbolique d'être blanc, mais pauvre. Bah, en fait, tu t'es dans la merde, comme les noirs, mais toi, au moins, t'es blanc. Et ça, je le vois tous les jours, au quotidien. Et c'est parce que personne ne dit, en fait, arrête, t'as plus en lien, en commun avec Mohamed, ton voisin, qui travaille par ailleurs à côté de toi à la chaîne, qu'avec tel patron, tel milliardaire. Et aujourd'hui, en France, je trouve, à gauche, on est séparés entre les tenants du marxisme tradis qui nous disent « Oh là là, faut pas parler de discrimination, ça divise les classes populaires. » Alors en fait, ils sont déjà divisés, donc je sais pas quoi te dire. Et puis, dans la base de la gauche, il y a des personnes racisées, il y a des personnes qui subissent des discriminations, et si on n'en parle pas, on n'est pas au niveau. Et des autres qui nous disent « Non, bon, en fait, vous êtes ontologiquement problématique, donc on va faire sans vous. Vous êtes irrécupérable. » Et en fait, pour moi, c'est une faillite de la politique. La politique, c'est convaincre. Mmh.
Alors, pour que ça change, je disais en vous accueillant que vous renouveliez la manière de faire de la politique. Concrètement, vous êtes portée candidate aux législatives dans l'Ain il y a 3 ans, sous la NUPES. Je rappelle que vous n'êtes pas encartée, c'était la gauche globale, on va
c'est
dire.
Ça.
Fort de tout ce constat que vous venez de nous exposer, votre manière de faire, votre méthode, c'est le dialogue. Quelle méthode de dialogue qui permet de renouveler la politique aujourd'hui ?
Donc nous, on a basé notre campagne sur une méthodologie de porte à porte. Donc on a toqué à des dizaines de milliers de portes. Mais le porte à porte, déjà, en fait, l'idée c'est pas de toquer à la porte des gens pour dire coucou, votez pour cette personne.
Voilà mon tract.
Voilà, non. On commençait tous nos porte-à-porte avec une question qui était « Bonjour, demain vous êtes président, présidente de la France, vous avez une baguette magique, c'est quoi la première chose que vous faites ?» Et ça, ça permet aux gens de dire ce dont ils ont besoin. Et en fait, ça tombe bien parce qu'à gauche, on a souvent réponse à leurs problèmes. Donc les gens disent « J'augmenterai mon salaire, j'aurai un meilleur HLM, il y aurait moins de gamins par classe pour mes gamins, il y aurait des EHPAD de meilleure qualité pour mes parents. » C'est très simple après. Tu dis « Oui, c'est dans le programme, votez pour nous. » Et en fait, tu pars des gens et de eux et de leurs besoins et tu les laisses expliquer pourquoi ils n'ont plus confiance en la politique, pourquoi ils sont tristes, pourquoi ils sont en colère. Et tu rediriges cette colère. Mais tu écoutes. Mmh. On disait, tu as deux oreilles et une bouche et il faut les utiliser avec ce ratio.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, je suis au bistrot en compagnie de Loumir Lapré, activiste qui lutte contre l'extrême droitisation en milieu rural. Elle rentre d'un périple aux États-Unis en Virginie-Occidentale. Elle a passé 6 mois parmi les électeurs de Trump grâce à la bourse Fulbright du département d'État américain. Alors Loumir Lapré, est-ce que vous pouvez, même si c'est très vaste cette région, nous décrire un peu les Appalaches et la Virginie-Occidentale ?
Oui, alors par des marqueurs donc. Tout le monde porte des bottes de cow-boy, mais pour aller travailler, enfin, je veux dire, c'est comme des chaussures de sécu chez moi, quoi. Mm-hmm. Tout le monde écoute de la country. Tout le monde conduit un pick-up. Une grande partie des gens habitent en trailer, donc des mobil-homes. Okay. C'est une France, n'importe quoi. C'est un espace blanc. La Virginie occidentale, c'est l'ancien bassin minier. 96% des gens sont blancs. C'est le deuxième État le plus trumpiste des États-Unis. Et c'est le quatrième État le plus pauvre du pays.
Et qu'est-ce qu'ils vous racontent, tous ces gens que vous avez rencontrés, parce que vous avez parlé avec plein de gens pendant 6 mois,
qui sont en colère. Très, très, très en colère. Il faut imaginer ce que c'est le quotidien de quelqu'un qui est pauvre là-bas. Donc déjà... énorme problème d'addiction depuis la crise des opioïdes, dont les Appalaches sont l'épicentre. Donc aujourd'hui, il y a une génération entière de personnes qui ont mon âge qui se débattent avec l'addiction. 30% d'enfants placés à cause de ces addictions, ça détruit des familles. Beaucoup de pauvreté parce que la fermeture des mines. Et en même temps, une vitalité extrêmement forte de la créativité, de la musique, de la danse. Il y a de la danse country, enfin différents types de danse country partout. Beaucoup de fierté, la capacité de se débrouiller seul. On compte les uns sur les autres. Mm-hmm. Beaucoup de foi aussi, on est sur le début de la Bible Belt. Et surtout, beaucoup de joie, malgré tout. Et des armes partout. Ouais. Des armes partout. Tu vas au bar, les gens posent sur le comptoir leurs clés, leurs portables, leurs portefeuilles et leurs guns, quoi. Mm-hmm. Ils sont armés tout le temps, partout.
Et qu'est-ce que vous avez compris alors du mécanisme qui les conduit à voter Trump, s'il en existe un ?
Plusieurs choses. D'abord, ils sont... Encore une fois, il faut se figurer l'état de décrépitude absolue de l'État américain. Enfin, je veux dire, il est défaillant, c'est même pas un mot, c'est un euphémisme, quoi. Donc, on peut être licencié pour 74% des Américains du jour au lendemain, sans aucune raison. Les conditions de travail sont très dangereuses. Les gens sont plutôt mal payés. Plus de 20% des hommes de mon âge sont des vétérans, donc des anciens militaires. Ils sont partis à 18 ans en Afghanistan ou en Irak. Consubstantiellement de la violence. Maintenant, du coup, ils se disent « Ok, qui va me défendre ? Est-ce que c'est le Parti démocrate qui nous a abandonnés ? Déjà, ça commence mal. Quand Hillary, en 2016, fait campagne, elle dit « On va fermer toutes les mines. » Bon, ça commence mal dans le bassin minier, en fait. Trump, il dit « On va réouvrir toutes les mines. » Bon, voilà. La plupart, l'immense majorité des gens détestent Trump en tant que personne. Il disait « Je voudrais pas qu'il sorte avec ma fille et j'ai pas envie de boire un verre avec lui, en fait. » Mais dans... un pays qui est géré comme une entreprise, ça fait sens de mettre un businessman à sa tête. Okay. Dans un pays où l'establishment nous a, baisés, et nous baise tous les jours, et nous exploite, et nous détruit, et nous violente, qui est-ce que je préfère avoir dans la pièce ? Quelqu'un qui rend l'establishment inconfortable, qui les met mal à l'aise, ou quelqu'un qui en fait partie? Bah Trump. Trump, il rentre dans une pièce, tout le monde est mal à l'aise, tout le monde se dit « putain, mais qu'est-ce qu'il va dire encore ?» Mais les gens, c'est jouissif pour eux. Ils se disent « ça y est, enfin quelqu'un qui leur met le nez dans le caca. » Des gens qui disent aussi... Il y a une femme qui était victime de violence qui me dit « voter pour Trump, c'est un peu comme retourner avec ton ex qui te tape dessus. » Ton mec actuel, il te tape dessus, mais t'es pas sûr qu'il va te taper dessus, tu sais pas quand ça va arriver, alors que ton ex, tu sais quand ça tombe, tu sais. Bon bah voilà, c'est une relation abusive, mais au moins tu sais à quoi t'attendre.
Ah oui, il vous a dit ça.
On m'a dit ça. On m'a dit, de toute manière, notre vie c'est un cirque, donc autant mettre un clown à la tête, comme ça tout le monde va se rendre compte que c'est un cirque. Donc ça, j'ai eu beaucoup, ce genre de choses.
Et là, vous écoutez, mais vous n'essayez pas de convaincre.
Non, alors pas là. Là, ouais. Moi, mon projet, c'était vraiment d'écouter et de laisser parler les gens de leur histoire personnelle. Ma question, c'était comment est-ce que les gens sont convaincus par Trump ? Parce que mon pendant, c'est comment on les convainc d'arrêter de voter pour eux. Et j'ai beaucoup d'espoir, parce que les Appalaches, c'est pas le Sud où il y a vraiment un passé esclavagiste extrêmement fort. Le racisme structure profondément le Sud des États-Unis. Les Appalaches, par exemple, la Virginie-Occidentale a été créée pendant la guerre de sécession parce qu'ils ont dit « nous, on veut pas être un esclavagiste ». Le mouvement minier, de syndicalisme minier, a été un des mouvements les plus forts, un mouvement multiracial de gens qui se sont opposés à leur patron. Ils ont voté démocrate jusqu'en 2016. Ils étaient un des piliers des États démocrates, de la force, pardon, démocrate. Et en 2016, 70% pour Trump.
Donc ça peut rebasculer dans
ça
l'autre sens.
Ça peut rebasculer. Quand on regarde les primaires démocrates, 100% des comtés de la Virginie-Occidentale ont voté pour Bernie par rapport à Hillary. Quelque chose qui est très fort, c'est les États-Unis. Donc il y a des drapeaux où les gens disent pour qui ils votent. Mais il y a un drapeau que j'ai vu nulle part ailleurs que dans les Appalaches pro-Trump, qui disait presque assassiné, impeached, donc quasiment inconstitutionnellement interdit de se représenter, blessé, defeated, donc il a perdu.
Outragé.
Voilà, outragé, exactement. Still standing, toujours debout. Comment ne pas voir le parallèle que les gens font avec leur propre vie ? Bien sûr qu'ils se disent, cet homme va me venger. Il va venger ma race, il va venger mon genre, il va venger ma classe.
Ah oui, c'est messianique, quoi.
C'est messianique.
Ah ouais, carrément.
C'est, il peut tout. Mais l'avantage, c'est que, bon, à part s'il nous fait une nouvelle dinguerie où il se représente en 2028, il va disparaître. Personne d'autre n'a ce pouvoir dans le Parti républicain. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, c'est ma grande question sur la France. Est-ce que les gens aiment Marine Le Pen ? Ou est-ce que les gens aiment le RN ? De même que dans les Appalaches, les gens aiment Trump et pas le Parti républicain. Donc, à la fin de Trump, à la fin de l'idole, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là que je pense profondément, aux États-Unis en tout cas, qu'il y a un espace très faible, très petit, très réduit, pour une vraie force de gauche à la Bernie Sanders.
Quand vous êtes arrivé aux États-Unis, c'était juste avant l'élection.
Un mois pile avant, oui.
Voilà, donc vous êtes resté à minima 4 mois. Les 4 premiers mois du deuxième mandat Trump.
Oui.
Est-ce qu'au moment où vous avez quitté les États-Unis, là, très récemment, vous avez déjà senti une réflexion, un basculement, une déception, quelque chose ? Parce que oui. Là, quand même, il a lâché les vannes. Là.
C'est... Alors, ce qui est très intéressant, j'ai interviewé... j'étais à un dirt track, donc c'est un espèce de circuit où les gens font des tours avec des bagnoles qu'ils ont construites eux-mêmes. C'est vraiment une culture hyper forte là-bas, donc 100% de Trumpistes, quoi. Et pour les 100 jours de Trump. Et donc j'ai interrogé les gens, est-ce que vous êtes contents ? Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit les attentes et les résultats. C'est-à-dire, il y a un gap. Clairement, les gens se rendent compte qu'ils sont en train de se faire niquer. Et là commence la dissonance cognitive absolue et les justifications des gens. Donc on a de tout. Il y a des gens qui disent « Non mais moi je suis trop bête, j'ai pas fait d'études, donc je dois pas comprendre, il doit avoir un plan, mais je comprends pas, mais je lui fais confiance. » Il y a les gens qui disent, quand on dit « Mais qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il va couper les quelques acquis sociaux que vous avez ?» C'est pas vrai. Je dis « Mais en fait ça a été voté, c'est faux. » Donc le déni. Il y a des gens qui disent « Oui, ben, on aimerait quand même bien qu'il arrête, mais peut-être qu'au début, c'était important de marquer un peu le coup. » Et en fait, là, on est dans la justification permanente et il y a encore cette envie d'y croire et de pas lâcher. Donc, je crois que il y a plein d'options possibles pour regagner les cœurs et les esprits de ces gens. Encore une fois, ça va être difficile. Enfin, je veux dire, ouais, les gens, ils disent des dingueries. Ils sont propagandisé à un niveau mais qui est inimaginable. C'est-à-dire que quand on leur parle, on est la seule personne qui les informe que leur retraite va être coupée. Ils n'ont jamais entendu ça. Ils découvrent, pendant que tu les interroges, qu'ils vont devenir SDF potentiellement. Ouais. Donc en fait, il faut imaginer ce que c'est.
Bon, Lumière Laprès, suite à tout ce constat, à toute votre expérience en France, milieu rural, aux États-Unis, votre connaissance de l'histoire de l'activisme, les méthodes que vous avez apprises aux États-Unis, votre nouvelle manière de voir la politique, maintenant, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qu'on fait? Et où est-ce qu'on vous retrouve?
Alors, les municipales, moi j'ai très très peur des municipales. Mm-hmm. La gauche se prend la tête pour savoir quelle métropole elle va gérer. Franchement, je m'en fous de savoir si c'est l'AFI, le PS ou LV qui dirige Paris.
Le niveau local,
ce qui m'intéresse,
vous misez
c'est
sur le local.
Les 30 000 communes de moins de 2500 habitants en France, qui va les gérer? Et chez moi, je peux vous assurer qu'on est sur du quasi 100% de fachos compatibles. Ces gens-là élisent le Sénat. Ces gens-là sont l'élu préféré de France. Je ne comprends pas pourquoi on ne s'excite pas plus. Donc, s'il vous plaît, si vous écoutez, présentez-vous. Présentez-vous. Enfin, je veux dire, là, il y a un nombre record de maires qui ne se représentent pas. Enfin, c'est essentiel. Donc, je vais bosser là-dessus.
C'est l'échelon basique.
Exactement. Là, maintenant, tout de suite. Et à long terme, le syndicalisme. Pour moi, c'est vraiment important. Et continuer à kiffer. Parce que je pense que c'est important, on décrit une société où on a envie de vivre bien, donc j'ai envie de continuer à prendre l'apéro, à voir les enfants de mes copains grandir, à écouter de la country et à voir mes proches et à manger de la bonne bouffe. Tout en militant quand même.
Mais
c'est, je me suis fait faire un super tatouage aux États-Unis.
Ah ouais,
du pain et des roses.
Mais oui, il y a une
la devise socialiste. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça la vie, on bosse pour, pour bouffer et pour vivre et voir la beauté. Je crois que c'est ça le programme qui devrait nous animer aujourd'hui.
Lumière Laprès, on peut vous suivre sur Instagram et donc partager une partie de votre périple aux États-Unis notamment.
Tout à fait.
Et c'est là où vous partagez vos idées, vos conseils et toute votre motivation.
Exactement.
Merci beaucoup Lumière.
Merci Charline.
Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, Anaïs Reynard à la réalisation, à la technique Florent Bujon et au mixage Théo Delobader. Merci aussi au service documentation de Radio France.